Soyez bénis de l'Éternel. Soyez encouragés. Souvenez-vous, pour certains, c'était pas tout à fait au début d'année, mais au printemps, où le Seigneur parlait d'un processus qu'il avait commencé. Et souvent, les processus, c'est quelque chose que l'on pense qui doit venir rapidement, mais souvent, on oublie les processus. Lorsque vous prenez une graine et que vous la mettez dans la terre, elle met du temps à germer. Souvent, les paysans plantent en ce moment, à l'automne, pour voir quelque chose pousser au printemps et récolter en été. Et donc, ça prend toujours du temps. Et si l'homme, la femme de Dieu, n'est pas patient, eh bien, il y a une forme d'agacement qui peut venir, une forme d'irritation. L'impatience est là et on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand dois-je attendre? Jusqu'à quand ce que j'ai entendu de ta part va s'accomplir? Et quand Dieu dit, ne t'inquiète pas, je t'ai entendu, et que j'ai engendré ce processus qui va t'amener à la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, tu n'es pas vraiment vivant comme il le faudrait. Mais ce processus va t'amener à la vie pour qu'au final, tu puisses porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, non pas par les forces humaines, non pas par les principes humains, mais par la force de Dieu. C'est pour cela que chaque fois, je vous donne toujours le titre du message pour que vous puissiez comprendre où on va aller avec le Saint-Esprit. Et le titre serait « Choisi pour être offert ». Choisi pour être offert. Et ça, c'est un processus en quatre parties qui, au final, va nous amener à la Sainte Seine. Vous allez comprendre que ce que l'on vit actuellement, Dieu sait toute chose, avant toute chose. Il a conçu la terre, il a conçu les cieux. Il savait depuis la nuit des temps qu'il va se passer telle et telle chose, que nous allons vivre telle et telle chose, que nous allons même dire telle et telle chose, que nous allons même regretter d'avoir dit telle et telle chose. Dieu sait lorsque l'on est sérieux ou lorsqu'on n'est pas sérieux. Dieu sait lorsqu'on est discipliné ou pas discipliné. Dieu sait lorsqu'on est dans l'erreur ou dans la vérité. Dieu connaît toutes ces choses. Et vous pensez que son amour a changé, malgré tout? Pourtant, il sait très bien et il connaît très bien nos faiblesses et nos manquements. Pourtant, il est toujours là, fidèle. Parce que si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle pour la vie. Alors, vous allez vous reconnaître dans ce processus. Et j'aimerais, et je demandais au Saint-Esprit que vous soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Parce que on peut cacher toute chose aux yeux des hommes. Et vous savez que Dieu sait toute chose. Puisque je viens de vous dire qu'il sait à l'avance ce que vous allez faire et dire. Dieu connaît vos priorités. Ce qu'il désire, c'est qu'il soit votre priorité. Si nous ne sommes pas la priorité de Dieu, nous sommes vraiment des hommes et des femmes charnels. C'est clair. Alors, la Bible commence comme ça dans Jean 15, verset 16. Bien sûr que ce sont des versets que l'on connaît tous, mais si le Saint-Esprit ne nous les révèle pas, si le Saint-Esprit ne met pas le doigt sur certains versets et certaines situations que la parole de Dieu nous révèle, comment pouvons-nous rentrer dans un processus et continuer dans ce processus? Il est dit, Maxime, ce n'est pas vous, vous connaissez tous par cœur, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit en mon nom et que ce fruit demeure afin, au bout de ce processus, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est un vrai processus de vie, non ? Rien que là, on pourrait y passer des semaines et des mois à discuter, à méditer et à comprendre chaque mot, chaque verbe, chaque situation qui nous amène dans un principe de vie. Parce que nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants. Aujourd'hui, pour celui qui croit. Et si on lit 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous allons voir une situation similaire. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Donc ça veut dire que le processus n'a pas commencé le jour où vous avez donné votre vie à Dieu. Ce processus a commencé depuis que Dieu, dans sa pensée, nous avait en pensée. C'est le chant qu'on a chanté, hein. Dans le cœur de Dieu, avant la fondation du monde, nous étions déjà conçus. Donc, si vous n'avez pas compris cette situation, je vous garantis que la suite, vous allez avoir du mal à la comprendre. Nous n'avons fait aucun effort. Alors, moi, surtout moi, j'en avais mais vraiment pas envie d'entendre Dieu. Tu me saoules. Tout. Ma sœur, mon grand frère qui me parlait de Dieu à l'époque, j'ai dit, mais arrêtez de me saouler. J'ai 20 ans. Laissez-moi vivre. Je vais partir à l'armée. Vous me parlez de Dieu. Mais attendez. Vous êtes ringard. Mais j'étais dans le cœur de Dieu. Et Dieu est patient. Nous ne le sommes pas. Il a dit, fais ton armée. Il commençait déjà à appeler mon fils. Fais ton armée, on verra au retour. Et il nous a choisis dès le commencement pour le salut. C'est-à-dire pour la vie. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Encore un principe, un processus de vie que l'on ne peut pas échapper. Et vous allez voir que nous les hommes, on est tellement malins que comme on n'a pas envie de dépenser un euro et qu'on n'a pas envie de payer le prix, parce qu'on se dit non, ça, je ne peux le supporter, parce que ça ne me convient pas, parce que le chemin que tu me fais prendre, il est trop compliqué, alors je vais prendre moi-même mes propres décisions. Pourquoi ? Parce que je vais te mettre à défaut, Dieu. Je vais te mettre à défaut. Tu dis que tu m'aimes. Prouve-moi-le. C'est choquant. C'est choquant. De dire à Dieu, prouve-moi que tu m'aimes. Comment ? En faisant ma volonté, Seigneur. N'ayez crainte, j'en ai partagé un peu hier avec le groupe que l'on était. J'en prends plein la figure en ce moment personnellement. La seule question que le Seigneur m'a dit, m'aimes-tu par défaut ? C'est pour ça que je vous répète ça. C'est parce qu'en fait, le choix, c'est comme si quelque part nous disions à Dieu, oh, si tu m'as choisi, c'est que je ne suis pas un bon à rien. C'est que tu as besoin de moi. Combien de fois on a entendu dire, Seigneur, tu as besoin d'un tel et d'un tel. Mais si Dieu avait besoin de quoi que ce soit, il ne serait pas Dieu. Depuis quand Dieu a besoin de quelque chose ? Dieu n'a besoin de rien. Mais dans son amour, il veut nous faire participer à ses bontés qui se renouvellent chaque jour, à sa gloire, à sa grâce, à sa grandeur. L'amour que Dieu nous a donné, il n'a pas de prix. Et il n'est surtout pas par défaut. Et Dieu n'interviendra jamais parce qu'on est capricieux. Donc s'il nous a choisis, c'est qu'il avait une idée en tête. Mais l'avons-nous compris ? Choisi, établi, pour aller, pour porter du fruit, afin que ce fruit demeure et que tout ce que l'on demande au Père, il nous soit donné. Donc, cette partie est primordiale. Et beaucoup l'ont zappé. Beaucoup ont oublié leur nature d'avant. leur nature. Si vous lisiez Éphésiens au chapitre 2, c'est terrible ce que dit Paul. Il dit, il rappelle aux Éphésiens, vous étiez morts. Vous étiez morts, condamnés. Il n'y avait personne pour pouvoir venir payer la dette. Personne. Tous vous ont tourné le dos, m'ont tourné le dos, mais tous se tournent le dos mutuellement. Tout ce qui est des ténèbres est ténèbres et finira dans les ténèbres. Mais Dieu est venu dans sa grandeur et dans sa miséricorde en Jésus-Christ. La lumière est venue. Il a dit, mais vous qui autrefois marchiez selon le train de ce monde et selon celui qui est l'esprit de ce monde, c'est-à-dire Satan, vous étiez comme des fils de la rébellion. Vous savez ce que ça veut dire, fils de la rébellion ? Ce sont les indisciplinés, les insoumis. En fait, quelqu'un qui est insoumis, c'est un indiscipliné, et quelqu'un qui est indiscipliné, ben on veut en faire qu'à sa tête. C'est un rébellion. Nous avons tendance à interpréter des mots à notre convenance, mais il y a des mots qui sont très forts. Très, très forts. Le fait que Dieu dit « Nourris-toi de ma parole » et que vous cherchiez des excuses pour ne pas ouvrir la parole de Dieu, ça s'appelle de l'indiscipline. Est-ce que c'est... Bah, au fait, entre parenthèses, comment on les appelait, les 12 ? Les disciples. D'accord ? Donc Dieu a fait de 12 personnes des personnes qui étaient indisciplinées. D'ailleurs, pendant tout le temps, ils avaient toujours quelque chose à redire. Sans arrêt, ils revendiquaient. Donc le processus a mis un temps. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. La discipline, si Dieu nous invite à la discipline, ce n'est pas pour nous sanctionner, nous punir. C'est parce qu'il nous a choisis pour quelque chose de grand et merveilleux. Donc c'est très simple. Quelqu'un qui prospecte des joueurs de football très jeunes et qu'il voit qu'il y a un don et un talent dans un enfant de 10 ans, il va commencer à parler aux parents en disant là, il y a matière à discuter parce que là, il y a quelque chose de bon. Et ils vont tout faire pour mettre l'enfant dans des situations qui soient bonnes. La première chose, c'est la discipline, par l'entraînement, pour mettre en valeur ce qu'il est. Et quand il devient, entre guillemets, un grand joueur de foot, et qui devient champion du monde, on va retenir simplement la prouesse et le résultat qu'il a fait, mais il a mis 20 ans. 20 ans de discipline. 20 ans de labeur, de sueur. Combien de fois ? Moi, j'ai très peu joué au ballon dans la haute sphère, on s'amusait. Mais dès que l'entraîneur était sérieux, oh, ça me pesait. Parce qu'il fallait souffrir. Et pourtant, on me disait de moi, quand je joue au foot, tu as du talent. Oui, mais j'ai aussi du talent pour aller courir les filles. Et j'ai choisi d'aller courir les filles. Et j'ai laissé tomber le foot à 16. Voilà, je n'avais pas envie de payer le prix. Et pourtant, c'était l'entraîneur qui m'avait choisi lorsqu'il y avait des recrutements. Pour ceux qui connaissent, quand on va faire du sport et qu'on y a la prospection. J'ai été choisi, vous avez été choisi, non pas pour ce que vous êtes, mais parce que Dieu vous aime, parce qu'il m'aime. Et alors, pourquoi il n'a pas choisi mon voisin ? Non, ce n'est pas le problème. Il t'a choisi toi. Donc rends-lui gloire de ce qu'il t'a choisi pour vivre. Ne te compare pas à l'autre. Lui, il va peut-être mourir si Dieu n'intervient pas avant la fin. Il va peut-être mourir, mais toi, si tu n'as pas compris que Dieu t'a choisi, qu'il t'a appelé, et qu'il t'a mis à part, alors tu n'as pas compris le sens de l'amour de Dieu et de la vie. Si tu n'as pas compris que choisir, c'est une extraction, on te sort d'un lieu, d'un contexte, et beaucoup vont dire, mais c'est du kidnapping. Oui, oui, Dieu nous a kidnappés. En fait, il a repris ce qui lui appartenait. Il est allé dans les ténèbres en disant, Cyril, je t'ai choisi dans la fondation du monde, tu vas rencontrer Marie-Agnès, et tous les deux, je vous kidnappe pour la vie. Mais Cyril et Agnès, Dieu dit, il va falloir que vous perdiez vos habitudes de quand vous étiez tant d'années dans les ténèbres. Parce que ces habitudes, c'est comme des tatouages. Ça reste gravé. Les tatouages, c'est pas bon. Parce que pour les enlever, il faut arracher la peau. Il faut souffrir. C'est pour ça qu'un tatouage n'est pas bon selon Dieu, parce que vous êtes esclave de quelque chose du passé qui reste collé sur vous à vie. C'est la notion de l'esclavage. Non, j'ai pas envie de me prendre en photo. Si c'était ma volonté d'avoir choisi Dieu, je pense que je ne serais pas avec vous. Parce que premièrement, je vous serais insupportable et vous me seriez insupportable. Donc je ne serais pas là. Si l'Église, corps de Christ, selon ma pensée à moi, c'était ça, non. Non. Non, parce que je n'ai pas la capacité de vous aimer. Vous savez ça? Vous savez ça? Que vous n'avez pas la capacité de m'aimer? Vous savez qu'il vous est impossible de m'aimer? Et que moi, il est impossible à moi de vous aimer? Je ne parle pas charnellement. Hein. Vous comprenez? Seul un ami est prêt à donner sa vie. Mais moi, j'ai. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, moi, jamais je vous donne ma vie. Hein. Vous rigolez ou quoi? Mais ça, c'est la chair qui le dit. Mais vous allez voir, mes paroles, elles ont un sens. Vous allez voir, elles ont un sens, mes paroles que je suis en train de dire. Parce que vous dites, oh, mais moi, je suis à Christ. Non, 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 tu vas voir. Jésus nous a choisis. Jésus nous a bénis. Jésus nous a bénis. Éphésiens 1, verset 3, Maxime. Et vous allez voir encore que la parole de Dieu a un sens. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous, peuple de Dieu, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais, comme il nous est difficile de payer le prix, et comme il nous est difficile de rentrer dans une soumission, dans une obéissance et dans une discipline, nous disons, et si tu m'aimes vraiment, Seigneur, il faudrait quand même que ces bénédictions arrivent jusqu'à moi. Et dans notre sorte de folie, parce que nous sommes des insensés, nous attendons que Dieu réponde à nos prières sans en payer le prix. Or, les bénédictions spirituelles, quelles qu'elles soient, elles sont là-haut. Donc il faut aller les chercher où? Là-haut. Maintenant, je vous répète et je vous rappelle quelque chose. Vous avez été choisi, vous avez été tiré d'un lieu et vous avez été positionné dans un autre lieu. C'est lequel? Qui se trouve où? On est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais comme nous n'arrivons pas à considérer cette vérité et comme elle ne devient pas une réalité dans nos vies, eh bien, nous sommes toujours ici-bas avec des yeux charnels qui regardent tous les problèmes qui sont liés autour de nous. Nous entendons et nous retenons que ce qui ne va pas, tout ce qui nous déplaît et tout ce qui est bon. On dit, mais c'est normal, je le mérite. Mais dès qu'il y a une parole de correction, elle ne va pas parce que le processus est en train de s'arrêter. Nous disions, Seigneur, bénis-moi. Et Seigneur, il dit, avant que ce que tu demandes au Père, tu le reçoives, je vais t'amener un processus. Mais dans sa bonté, Dieu anticipe nos besoins. En fait, les besoins dont nous avons, qui sont là, il les connaît, il anticipe et il répond. Combien de fois entre nous, sans demander à Dieu, la bénédiction est venue? Combien de fois Dieu nous a gardés, protégés, secourus? Combien de fois Dieu a renversé une situation qui paraissait impossible? Nous avions déjà 1000 fois baissé les bras parce que nous ne faisons pas d'effort. Et dès qu'un petit effort est fait, la canicule aidant, ça nous fatigue. Eh bien, on dit, Seigneur, non, J'en ai un peu plus, viens au secours de mon incrédulité. Alors ça, c'est la parole facile. C'est encore prendre en otage Dieu. Tu vois, Seigneur, moi je suis un incrédule. Allez, fais un effort. Réponds, agis. Mais Dieu dit, dans mon amour sans défaut, eh bien, je vais même te répondre. Parce que tu ne mérites rien, mais parce que je t'aime, je le fais. Et là, la chair commence à dire, t'as vu, ça marche. Ça marche. Pourquoi prier? Pourquoi intercéder? Pourquoi être obéissance? Pourquoi lire la parole de Dieu? Continuons à vivre comme l'on est. Continuons à vivre comme l'on est. Dieu est bon. Et j'ai fait une parenthèse, j'ai discuté avec Dess et Elodie, qui sont à la maison. Et un jour, Seigneur me dit, tiens, écoute John MacArthur, je ne savais même pas qu'ils étaient ce gars-là. J'écoute ce gars-là qui dit, il avait une interview d'une femme dans une émission chrétienne. Donc, normalement, quand vous êtes invité dans une émission chrétienne, vous pensez que la personne qui vous interviewe est au moins une chrétienne. D'accord? Au moins jusqu'à là. Donc, cet homme y va pensant que c'était la réalité. Donc, il parle qu'il n'y a pas d'autre salut que celui en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Voilà ce qu'il développe. Et il dit, et Dieu dit, il faut que vous soyez purifiés par le sang de l'agneau de tout péché, parce que le péché vous empêche de recevoir la vie. Très clair. À la fin, une fois que c'est fini, la femme lui dit, oui, mais, pasteur, là, vous dites ça, mais vous exagérez pas un peu quand même? Quand même, qu'est-ce que la valeur d'un péché? Regardez, comme ça, elle dit la femme. Moi, on discute, je vous interviewe, mais moi, je vis avec mon concubin, tout va bien, Dieu m'aime. Il m'arrive de pécher, Jésus m'aime. Elle développe ça. Le type, il dit, sidéré. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce traquenard? Où je suis tombé? Mais combien de chrétiens parlent comme ça? Mais combien disent, de toute façon, personne ne me voit? En gros, c'est ça qu'elle disait, parce qu'elle l'a pris à part. Vous imaginez qu'elle aurait dit ça en public, sur le plateau? Elle était lynchée. Mais elle a dit ça à part. Mais Dieu, il connaît ton cœur. Mais dans sa bonté, quand il t'a choisi, il t'a élevé, il t'a béni, il t'a donné tout ce que ton cœur désirait, parce que c'était pour te montrer qu'il était là, infaillible, comme un enfant. Les enfants, ils sont capricieux. Les enfants, ils ont besoin de ça. Un enfant de 4 ans ou 4 ans, il court. Vous savez qu'il n'a pas l'intelligence renouvelée pour être sérieux, fidèle. Donc Dieu sait que tu as un besoin et que tu dois grandir, que tu dois aller en maturité. Il sait que tu dois grandir selon sa parole. Donc il va être là, il va te donner toujours le coup de pouce, la nourriture qu'il te faut. Mais à un moment donné, il va bien falloir que toi-même, tu commences à être une plante qui porte du fruit. C'est ça. Il t'a élevé. Élevé au-dessus de tout nom. Vous savez que le peuple de Dieu était distingué de tous les autres noms de la planète au moment de Moïse. Dans Exode, au chapitre 33, Moïse, il dit, non, il faut que tu me fasses voir ta gloire, parce que moi, sinon, je ne conduis pas ce peuple. Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, ce peuple-là, il est distingué de tous les autres peuples. C'est-à-dire qu'il dépasse d'une tête. C'est-à-dire qu'il est différent. C'est-à-dire qu'il est reconnu. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, que vous parliez ou vous ne parliez pas, si réellement l'Esprit de Dieu est en vous, il se voit. Parce que c'est une lumière qui brille. D'ailleurs, les satanistes disent que les vrais chrétiens, on les reconnaît avec une flamme de feu. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. C'est ce que disent les satanistes. Donc, apparemment, si c'est la réalité, il vaut mieux avoir cette flamme qui brille. Mais nous brillons, nous, en tant que lumière et celle de la terre. Nous brillons en tant que porteurs de lumière. Nous sommes appelés à porter. Mais si nous choisissons notre intérêt et que nous croyons que la bénédiction, elle est terrestre, eh bien oui. Le Seigneur dit, tu auras ta bénédiction. Elle se reposera sur l'homme. L'homme te bénira, mais ça sera éphémère. Ça sera comme un feu de paille. D'ailleurs, quand quelqu'un gagne une coupe, la semaine qui suit, il est invité sur tous les plateaux. Tout le monde l'interview. Une semaine après, on l'a oublié. Et 5 ans après, qui c'est qui a gagné au fait? Il y a... Ah bon, c'est bon. C'est ça, la récompense de l'homme. Vous cherchez à être vu et les mérites de l'homme, alors vous l'aurez. Je vous garantis que vous l'aurez. Mais les souffrances qui suivent ne sont pas celles que Dieu nous demande de vivre. Il nous a élevés pour être établis, pour être oints, afin d'accomplir pleinement sa volonté. Oints, bénis, pour accomplir pleinement sa volonté. C'est quoi ? Libérer, délivrer, guérir toute personne qui se trouve pas sur notre chemin, sur son chemin. Écoutez ce que... Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait une petite correction. Il me dit, « Ah, Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu mets sur mon chemin. » Qui a prié comme ça ? Allez, je ne suis pas tout seul. Ben, Saint-Esprit me dit, « Ah, ta, 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 ta. Quel chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est mon chemin que tu as emprunté. C'est mon chemin que tu es censé emprunter. Tu marches selon mes voies. La route que je t'ai donnée, pas la tienne. Donc toutes les personnes que tu vas rencontrer sur ta propre route ne sont que des valeurs nulles. Mais toutes les personnes que tu vas rencontrer sur mon chemin sont des personnes qui cherchent le salut. Donc ce n'est pas sur ton chemin que je bénirai, mais sur mon chemin, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et souvent nous disons, cela vient de Dieu. Je le sens, oui, ta chair qui sent. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, il y a une telle vérité, vous savez comment on sait qu'une chose, une œuvre vient de Dieu ? C'est qu'on est prêt à donner sa vie pour cette œuvre. On est prêt à mourir. Parce qu'il y a l'amour qui vient. Quand Dieu met une personne sur ton chemin, là, sur le chemin de Dieu, puisque tu es sur son chemin, là, tu es prêt à donner ta vie. C'est-à-dire, même s'il t'agace, même s'il t'énerve, et même ça fait 20 ans, tu l'aimes. Parce que c'est une créature que Dieu a choisie. Et combien d'entre nous, on démissionne ? Ça fait 10 ans, Seigneur. Il n'y a rien au bout. Je suis fatigué. Rien au bout. Ça, c'est Gabi pendant 8 ans à Oasis. Pendant 8 ans, j'ai semé, j'en avais marre, et foutez-moi la paix. J'ai même voulu démissionner. Ma démission était acceptée quand, le jour d'après, convocation, non, tu restes. Tu restes. Le Seigneur me disait, tu restes. Tu as semé. Tu as un peu arrosé. Laisse-moi le temps de faire croître. Heureusement pour lui. Pour moi, je veux dire. C'est qu'après, il y a eu les fruits. Et ce groupe que le Seigneur m'a confié, je les aime. Et vous savez ce qui se passe ? J'ai jamais vu ça, moi. Certains sont nés de nouveau, mais Marie-Belle est là. Elle peut être témoin de si je raconte des âneries. Il y a une telle ferveur, une recherche. Ils attendent que ça. C'est quand la prochaine réunion dans 15 jours ? Mais au début, je disais, on y fait une fois par mois. Non, c'est trop long. Et ils sont là. Et ils écoutent, et je suis long. Vous savez que je suis un bavard et que mes prêches durent trop longtemps. Alors là-bas, personne ne dit rien. Et ils sont heureux, je suis heureux. Et quand je rentre, je dis, tu l'as dit, c'est bien passé, je dis, si l'Église pouvait être comme eux. Le processus continue. Alors, je ne sais pas si vous êtes au premier, mais si vous êtes simplement dans les bénédictions terrestres ou célestes, je ne sais pas si vous avez compris que pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut aller les chercher en haut. Non, je viens de dire une ânerie. On ne va pas les chercher en haut, on est censé être en haut. Donc il faut demeurer en haut. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas faute qu'Alain et Antoine nous exhortent chaque week-end à demeurer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, la semaine dernière, la réunion, c'était dans la présence de Dieu. N'en dis pas plus. C'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur, la présence de Dieu. Vous savez que le sang de Jésus nous a purifié de tout péché. Mais vous savez ce qu'il a fait après ? Il avait une clé à la main, le sang. Ah, une personne le sang ? Non, c'est une figure. C'est par le sang de Jésus que nous avons accès au lieu saint, au très saint. C'est grâce au sang de Jésus que nous avons accès au lieu très saint, dans la présence de Dieu, là où on est intouchable. Vous savez qu'on est intouchable dans la présence de Dieu ? Vous savez que Satan peut nous condamner chaque jour, dès que nous sortons de la porte, dès que nous sortons de la présence de Dieu, il est là et nous bombarde, il nous bombarde, il nous bombarde de méchanceté, d'accusations et tout. Et puis nous, on est... Et on est... Et il te suffit de rentrer vite fait dans la présence de Dieu, de louer Dieu. Parce que quand on loue Dieu, on ne pense pas au problème. C'est le principe de l'adoration. Quand on adore quelqu'un, on ne pense pas au voisin, puisqu'on adore celui que l'on a choisi. Quand vous êtes invité à table et que vous mangez le meilleur des plats, vous ne faites pas de comparaison avec celui d'avant. Vous vous contentez de manger parce que c'est succulent. Et c'est la présence de Dieu, c'est succulent. On mange des choses merveilleuses. On boit des merveilles, des breuvages miraculeux. Tout ce qui nous satisfait, on l'a dans la présence de Dieu. C'est la bénédiction céleste. Et quand nous redescendons dans la vallée de l'ombre et de la mort, on ne craint aucun mal. Parce qu'on a été revigoré, rempli, fortifié, encouragé. Parce qu'on est des fils et des filles de Dieu qui connaissons la parole de Dieu et qui savons que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Et nous allons, et nous offrons quoi à ces gens ? Non pas des leurs, non pas des utopies, non pas du mensonge, mais nous leur donnons quelque chose d'éternel. La vie. La vie ! Mais si nous sommes, nous n'avons aucune démonstration de la vie, comment les gens vont avoir envie ? Comment ? Imaginez que vous êtes le meilleur cuistot. Et vous faites un plat le meilleur au monde et vous le mettez dans une gamelle dégueulasse. Mangez. Vous allez voir combien il y en a qui vont planter la fourchette. Nous avons le meilleur en nous, mais notre plat est dégueulasse. Il est sale. Il est souillé. Alors vous pouvez offrir à manger. Le clochard, il va dire, c'est bien parce que j'ai faim. Hein. Et maintenant, on passe à un principe. On avance. Ça, c'est le plus compliqué. Ça, c'est le plus compliqué. Vous savez, quand on rentre dans la mer et que l'eau est froide, au début, c'est froid, mais les pieds, on y va. On est quand même téméraire, on y va. Vous allez au Portugal, l'océan, il fait 18 degrés. Ouais, jusqu'au genou. Ça va encore. Mais, quand il faut rentrer et que l'eau, elle arrive là, ça fait... Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Non, l'eau est trop froide. Ça, spirituellement, c'est la position de l'âme. C'est pas là, hein, l'âme. Hein. C'est pas là, c'est le cœur. Spirituellement, c'est l'âme. Et vous savez, quand des fois on souffre ici, on souffre pas là. On souffre là, c'est l'âme. Et qu'est-ce qui se passe ? L'âme, qui est assujettie malheureusement souvent à la chair, eh bien, entend la chair qui dit rentre, il fait froid. Et on ne veut pas faire le pas de plus. Parce que moi, j'aime l'eau. Et c'est pas grave quand elle est froide. J'y vais. Et quand vous rentrez dans l'eau, même si vous faites... Et que vous plongez, derrière, on n'a plus envie d'en sortir. Pas vrai, Dess ? Bon. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Maxime. Car ainsi... parle l'Éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Alors, ça confirme ce que j'ai dit avant, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Annonce-moi l'allégresse. Et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oh, ton Dieu, là, il n'est pas un peu... En fait, le brisement. Vous savez comment on fait pour retenir une brebis qui se barre de la prairie, du l'enclos ? Vous savez ce qui se passe en vrai chez les bergers ? Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Pourquoi ? Pour pas qu'elle puie et qu'elle se fasse bouffer par le loup. C'est réel, ça. Mais vous croyez que le pasteur, il le fait, le berger, il le fait pour Tu dis, viens voir, je vais te mettre la correction. Non, c'est parce que c'était une brebis indisciplinée. Oh loup, oh loup! Il est où le loup? À force de hurler, il n'est pas là. Alors que la brebis, elle dit, j'y vais. Sort de l'enclos, bah, le loup, il est là. Parce que l'ennemi, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Parce que dès qu'on... Alors c'est quoi l'enclos, au fait? C'est la présence de Dieu. L'Église, corps de Christ, doit vivre dans la présence de Dieu. Lorsque nous nous réunissons, chacun d'entre nous, on n'a pas à créer une atmosphère. Mais d'où c'est marqué dans la Bible qu'il fallait provoquer une atmosphère pour que la présence de Dieu soit là? C'est comme si c'était de la magie. D'où c'est magique? Dieu, tu es mon Seigneur et Sauveur, je te loue, je te bénis. Sois exalté. Hop, déjà ça commence. Ça encourage le voisin qui dit la même chose. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous nous libérons. Nous ne libérons pas la présence de Dieu. Nous nous libérons dans la présence de Dieu. C'est différent. Jamais nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir, bien aimé, de libérer la présence de Dieu. Parce que sinon, on ferait ce qu'on voudrait. On dirait, Seigneur, bénis-moi. Bon là, laisse tranquille, ça y est. Hein, ton jardin, la pièce. Hein, Jérémy, toutes les pièces là, sauf celle-ci là, celle-ci elle ne te regarde pas, hein, t'y vas pas. Il y a des photos qui m'appartiennent, elles me compromettent. On me voit dans des situations, n'y va pas, Seigneur. Non, c'est pas nous qui libérons la présence de Dieu. Nous nous libérons dans la présence de Dieu à cause de notre discipline, de notre fidélité, de notre amour pour Dieu. Et alors, après nous avoir élevés par son choix et son appel à le servir dans sa bénédiction, il va nous sanctifier par son esprit. Pourquoi ? Pour être malléable entre ses mains, malléable comme l'argile entre les mains du potier, afin de nous identifier à Christ. Vous savez, la Bible, elle raconte des histoires, des métaphores, des figures, des paraboles. Vous pensez que c'est juste parce qu'il fallait meubler un livre? Quand Jérémie parle du potier, parle de l'Église, parle d'Israël, je veux dire, s'il sait qu'il faut reconstruire le vase, c'est parce que le vase que nous sommes, quand il a été récupéré des ténèbres, ben il avait quelques problèmes. Ça coinçait sur certains endroits. Et vous allez me dire, mais pourquoi il a attendu tant de temps? Parce que pour que tu comprennes combien il t'aime. Il t'a mis à l'aise dans la maison. Il t'a accueilli comme une fille, comme un fils, que tu prennes à grandir. Pour que tu comprennes le lieu où tu te trouves. Que tu connaisses et que tu comprennes comment Dieu agit et pourquoi il agit comme ça. Et au moment donné où tu commences à saisir ça dans ton cœur, tu es prêt à ce que l'intervention, l'opération se fasse. Vous savez, il y a des fois, il y a des opérations qu'on fait instantanément quand on va à l'hôpital. Et il y en a d'autres, on prépare. Il y a un temps. Et au moment où le temps est préparé, l'intervention, elle est là. Et on agit. S'il n'y a pas de préparation, on ne comprend pas. Et lorsqu'on arrive devant la table d'opération, on dit non, moi, vous ne m'avez jamais dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Et Dieu prépare. Il dit, il y a encore en toi des choses qui sont aigries. Il y a encore en toi de l'amertume. Il y a encore en toi trop de murmures. Il y a encore en toi trop d'incompréhension. Il y a encore en toi trop d'incrédulité. Il y a encore en toi trop de ton passé. Et donc, Dieu dit, il faut que j'intervienne. Il faut que tu passes entre les mains du potier. Mais comme Dieu n'a jamais mis le couteau sous la gorge d'un de ses enfants, il attend que nous sommes d'accord. C'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe 57, « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Il ne dit pas « Je suis avec l'homme que j'ai contrit et humilié. » C'est pour ça que la parole de Dieu doit être lue dans la méditation selon l'esprit. Parce que notre chair, elle dit « Passe les versets, passe. T'as lu tes trois chapitres, passe, c'est bien. T'as fait ta béa devant Dieu, personne ne pourra te le dire. Combien de fois tu lis? Combien de temps tu lis la parole de Dieu? Une heure. Ah oui, mais moi je peux la lire comme ça. Hein. Comme on lit l'équipe. Hein. Mais là, le Seigneur a dit, je suis avec l'homme, non pas que j'ai contrit, mais qui s'est laissé contrire. qui s'est laissé briser. Parce que si tes os ont été brisés, ils vont se réjouir. Encore une fois, pour ceux qui ont fait la médecine, si je ne me trompe pas, ah, tu vas me le dire, Elodie, quand on casse un os et qu'il se ressoude, il ne se cassera jamais au même endroit, parce qu'il est très solide, plus solide que l'autre partie. Donc ça veut dire quoi? Là où il y a ta faiblesse, Dieu va briser, va recoller à sa façon, et il n'y aura pas de bavure, ce sera nickel, tu ne boiteras pas, tu marcheras bien. Brisé, rompu pour mourir en Christ afin de ressusciter en Christ. Ce sont les rendez-vous de Dieu dans les déserts, les rencontres dans son intimité pour découvrir le cœur de Dieu. Des moments de silence où Dieu seul parle. Parle, ton serviteur écoute. Vous savez, j'ai écouté un rabbin qui disait l'interprétation qui se fait de quand les espions sont allés voir le pays promis et que 10 sur 12 ont donné un mauvais résultat, les conséquences, c'est qu'ils ont erré pendant 40 ans. Traduction de nous, évangéliques, ils ont été punis. Oui, ils ont été sanctionnés. Encore une fois. Or, Dieu démontre son amour incommensurable et insondable qu'il n'y a jamais de punition ni de sanction de sa part. C'est un Dieu juste, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Dieu, ben, il ne croit pas, mais la finalité, c'est l'enfer. Parle très brut. Celui qui croit en Dieu, c'est le paradis. Et bien sûr, croire en ayant une vie sanctifiée. C'est ce que j'expliquais, hein. Sinon c'est trop facile. Mais là, nous on pense tous qu'ils ont été sanctionnés. Or, le mot désert, traduit dans l'hébreu spirituel, ça veut dire rencontre avec Dieu. Si Dieu me donne un rendez-vous, il me donne un rendez-vous pour me piéger, il me donne un rendez-vous pour me punir, il me donne un rendez-vous pour me dire, toi, regarde maintenant ce qui va t'attendre. T'as cherché, t'as trouvé. Bien fait pour toi. Je te l'avais dit. Il fallait m'écouter. Espèce d'insolent. Hein? C'est comme ça que moi je voyais Dieu avant. Hein? Dieu, dans son amour, pendant 40 ans, a éduqué, instruit, enseigné son peuple. Parce que l'état du peuple qui n'était pas enseigné, qui n'était pas malléable, qui n'était pas entre les mains de Dieu, ne pouvait pas rentrer dans le pays promis dans l'état où il était. Bien que, si les 12 avaient un rapport bon, ils seraient quand même rentrés. Mais comme Dieu connaît toutes choses, il savait très bien qu'ils allaient rebeller. Il savait ces choses. Il a dit, je vous donne un rendez-vous dans le silence. Parce que le lieu du désert, c'est le silence. Pourquoi Dieu donne des rendez-vous dans le silence? Parce que quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est humilié dans l'esprit, qui reconnaît que c'est pour son bien, il vient en faisant silence, tu sais, en langage que... On marche la queue entre les jambes. Parce qu'on dit, tais-toi, t'en as déjà assez dit. T'as déjà dit assez de bêtises. Tu t'es déjà trop souvent opposé à Dieu. Et il est temps, maintenant, que ton cœur soit malléable entre les mains de Dieu et que tu l'écoutes. C'est pour ça que normalement, Samuel a dit, étant petit, parle. Ton serviteur, écoute. L'écoute, c'est quelque chose de compliqué. Il y a tellement de bruit autour de nous et nous faisons tellement de bruit que quand le Seigneur parle, on ne l'écoute pas. Alors qu'est-ce qu'il fait par amour pour nous? Qu'est-ce qu'il fait par amour pour nous? Il va nous amener dans une situation que nous, on considère comme une épreuve. Et qui aime les épreuves? Qui aime les tempêtes? Bon, un petit vent, mais un ouragan de 200 km/h. Mais il dit, quel est le problème de l'ouragan? Viens, on va au cœur de l'ouragan. Et dans le cœur de l'ouragan, c'est la paix. Dieu nous amène dans les déserts que nous considérons comme morts pour que nous entendions la vie. Nous entendions la vie. Et j'aime bien tous les documentaires dans les déserts. Soudain, arrive le soir et ça bouge dans tous les sens. C'est dans le désert de Dieu que tu entends sa voix qui te dit « Mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection, voilà ce que je veux faire de toi, mais voilà ce qui m'empêche de faire de toi telle et telle personne. » Parce que n'oubliez pas, quand il vous a choisi, il vous a donné déjà l'appel. Et vous savez, c'est le moment de ton élagage dans le désert, dans le brisement. C'est ton moment de transformation et de formation dans ton désert. Et, écoutez, c'est au moment où vous commencez à porter du fruit, c'est au moment où vous commencez à avoir de la notoriété, c'est au moment où les dons commencent à s'exprimer que tout s'arrête. Si vous lisez Jean 15, il dit, vous portez du fruit, mais pourquoi le vigneron a besoin d'élaguer la vigne ? Il y a déjà du fruit. Pour porter plus de fruits. En fait, nous disons, oh, je vais me contenter de ça. Et Dieu dit, mais pourquoi tu me limites ? Depuis quand ? C'est toi qui décides ce que je vais faire. N'est-ce pas ma volonté que tu dois accomplir ? Pourquoi t'arrêtes-tu à ça, à 5%, à 2%? Pourquoi tu ne vas pas au-delà afin que ma gloire soit manifestée avec puissance? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi? Et je vous le dis, c'est souvent quand la notoriété, quand la réussite est là, quand nos prières sont exaucées, quand on voit quelques fruits, que l'orgueil arrive. L'orgueil, il est là tout de suite. L'ennemi dit, « Ouh là là, tu portes 30 fruits, c'est déjà pas mal, calme-toi. » Au fait, va voir ceux qui n'en portent pas en leur disant, « Quand on aura déjà porté 30 comme moi, on discute. » Alain, t'as jamais vu, t'as jamais entendu? T'as jamais entendu des pasteurs parler comme ça? T'as jamais entendu des hommes de Dieu parler comme ça? Que Dieu te garde. J'ai entendu. J'ai entendu. C'est pas dit directement, mais c'est pareil. Et là, Dieu, pouah. Après, il y a celui qui veut se faire restructurer par Dieu ou celui qui reste brisé et qui reste dans le désert. Parce que le but de Dieu, c'est pas de rester dans le désert. La preuve, ils sont rentrés dans le pays promis. Là où il y avait le lait et le miel. C'est là le souci. Maintenant, Jean 3, 30, il est dit, c'est pas marqué, il est dit, il faut qu'il croisse et que... C'est ça le brisement. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas qu'il est fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand ma chair est faible que l'esprit en moi devient fort. C'est qu'on prend conscience que Dieu nous invite dans les lieux célestes. Rendez-vous avec Dieu dans la montagne sainte pour nous sanctifier, pour nous consacrer à lui. Une mise à part qui va porter du fruit au centuple. Alors le centuple, c'est comme si on pourrait dire 100%. C'est-à-dire le maximum que tu puisses porter selon les capacités, les dons que Dieu t'a donnés. Alors pour cela, il n'y a aucune comparaison, parce que 100%, c'est tout. 100 tout seul, c'est un chiffre limité. Si Marilyn, elle porte 100% de toutes ses capacités et que ça produit 30, devant Dieu, elle a porté 100%. Mais si Alain, son mari, porte 100% d'une capacité de 50, c'est 50. Et, bon, et Alain n'a pas dit, oh, j'en ai plus 20 plus que toi. Non, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mesure. C'est simplement une grâce que Dieu nous fait qui dit, je suis avec vous tous les jours pour accomplir pleinement ma volonté, afin que tout le fruit que vous portiez soit pour la gloire de Dieu. Maintenant, on arrive à la fin. Choisi, élevé, brisé, partagé. Il nous a partagé, il nous a offert une vie pour une offrande. Matthieu 26, 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Lorsque le Seigneur a fait référence à ce passage, il parlait de lui, de son corps. Mais nous, aujourd'hui, l'Église, c'est quoi l'Église aujourd'hui? C'est bien le corps de Christ. C'est le corps mystique de Christ. Là, c'est le corps commémoratif. Mais réfléchissons bien à quelque chose. Si nous sommes le corps de Christ, si nous sommes le corps de Christ, pourrions-nous pas nous retrouver là? Est-ce que ce serait une hérésie de dire qu'on peut se retrouver là? Eh est-ce que ce serait une hérésie? Ça, nous, ce que nous prenons le pain et le vin, c'est l'action d'un souvenir de ce que Dieu a fait. Mais nous sommes devenus le corps de Christ. Quelque part, je pourrais dire, Seigneur, je donne ma vie. Je donne ma vie. Ou je te donne ma vie. Quand je te dis, je donne ma vie pour telle et telle personne, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que les amis donnent leur vie pour les autres. Quand nous prenons le pain et le vin, on prend le pain parce que Jésus a donné sa vie, son corps pour nous. Vous voyez où je veux en venir? Lorsque le Seigneur a fait référence, donc, aujourd'hui, nous prenons la Sainte Cène. Il est la tête, je suis son corps, et je deviens, par là même, une offrande vivante pour l'humanité. Je deviens, moi-même, une offrande pour l'humanité, pas pour ceux qui m'intéressent, au travers du corps de Christ. Nous sommes, et là j'ai bien aimé quand j'ai reçu ça, nous sommes l'abondance de Dieu. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les affamés. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les perdus. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les oubliés. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les maltraités. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les malades. Nous sommes l'abondance de Dieu pour les infirmes. Ce sont toutes les bénédictions spirituelles qui sont réservées à nous dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, à travers le corps que nous sommes, viennent en nous. Elles sont en nous. Voilà les lieux célestes en nous. Jésus est en nous par le Saint-Esprit et qui nous a choisis pour être l'abondance de ceux qui sont pauvres, même s'ils sont riches. C'est l'église de Laodicée. Elle se croyait riche, mais elle était plus pauvre que tous. Mais nous avons l'abondance dans l'esprit de quelque chose qui dure éternellement. Un puits sans fin. On peut aller puiser, toute l'humanité peut aller puiser. Il y aura toujours de l'eau. Il y aura toujours quelque chose à donner. Parce que Dieu est sans limite. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il écrit dans Jean 6, 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Là aussi, pourtant j'ai prêché là-dessus, et pourtant une autre révélation m'est venue, d'où l'importance de louer Dieu dans la lecture de la parole. Et il est dit, nous devons rester dans la corbeille, nous devons rester dans ces corbeilles. Rappelez-vous, par terre, les gens qui avaient entendu la parole, les 15 000 personnes, parce que 5 000 hommes, plus ses enfants et les mamans et tout, on pouvait considérer que des 15 000, il est resté plein, des morceaux des 12 corbeilles, des 5 pains et des 2 poissons. Et Dieu a dit, je ne veux que rien soit jeté par terre. Je ne veux rien qu'il soit abandonné par terre. Je ne veux qu'aucun d'entre vous ne soit méprisé et jeté par terre. Ramassez-moi tout. Ramassez-moi toutes les miettes. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui a été humilié dans la grâce de Dieu, peut se considérer comme une miette. Parce qu'il ne verra jamais d'orgueil en lui. Il va dire, je suis humble. D'ailleurs, l'humilité précède la gloire. Il dira, Seigneur, je suis peut-être une miette, mais cette miette peut nourrir une personne et lui sauver la vie. Mais la miette qui compose un panier devient un gros pain. C'est la multiplication. Et c'est ça que Dieu dit. Nous devons rester dans la corbeille par l'amour de Dieu et par la crainte de l'Éternel. Vous ne pourrez rester dans cette corbeille si vous n'avez pas l'amour de Dieu et si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ce sont des lois qui régissent le royaume de Dieu. Il nous a choisis. Donc je finis par là. Si jamais tu veux intervenir, Antoine, c'est bon. Il nous a choisis. D'accord ? Il l'a béni. Donc il l'a élevé, ce morceau de pain. OK ? Bon, vous êtes le morceau de pain, hein, j'espère pour vous. D'accord ?
Il l'a brisé. Il nous a brisé. Alors qu'elle a au moins 3 déjà. Avant, j'étais tout seul, maintenant, je suis 3. Avant, je pouvais nourrir que Clémentine, maintenant, je pourrais ajouter Jeanne Lala. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il nous a payé, qu'est-ce qui se passe? Et il nous a partagé.
Il nous a choisis. Il nous a bénis. Il nous a brisés. Et il nous a partagés. C'est l'abondance de Dieu. Mais il y a une condition. Les miettes par terre n'intéressent pas Dieu. Ramassez chaque miette et qu'elle demeure dans la corbeille. C'est dans le corps de Christ que Dieu se glorifie. C'est dans le corps de Christ que Dieu se glorifie. Et si Dieu n'est plus la priorité de vos cultes, qui va être la priorité de vos cultes? Si Dieu n'est pas la priorité lorsque le corps de Christ se réunit, qui est la priorité? Il y aura toujours une excuse de ne pas venir au culte. Il y aura toujours une excuse de ne pas répondre à une invitation. Il y aura toujours une excuse de ne pas venir dans la présence de Dieu. Ça sera mon prochain message. Il y a des conséquences aux excuses charnelles. Il y a toujours des conséquences aux excuses charnelles. Et ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible qui va le dire. 5 pains, 2 poissons, multiplication, 15 000 hommes nourris. Antoine ?
Merci Gabi. Dans la continuité, tu peux mettre, avant de prendre la Sainte-Seine, nous, Gabi a insisté, et c'est le fond du message, on est choisi avant la fin du monde. Et vous savez, ce que vous allez participer, il a été choisi aussi avant la fin du monde. 1 Pierre 1,19, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et le vin, prédestiné avant la fin, la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, je demande simplement, vous qui croyez dans votre cœur, qui avez été choisi depuis longtemps, et vous avez cru en ce moment, les temps sont accomplis à cause de vous, à l'agneau de Dieu qui a été à la croix avec son sang pour nous sauver. Levez-vous et venez devant pour partager ce pain et ce vin.
Je pense que vous pouvez vous partager avec quelqu'un dont l'Esprit dit connecte-toi. Je pense que vous pouvez dans l'esprit, choisir quelqu'un pour vous reconnecter. C'est peut-être entre épouse et mari ou entre quelqu'un avec qui vous n'aviez pas vraiment de connexion. Et je crois que vous pouvez vous partager pour ne faire qu'un. Alors, prenez le temps, on a encore 20 minutes. Prenez le temps de considérer ce que Dieu veut faire de vous et avec qui vous devez vous partager pour le bénir.